La situation internationale, texte du 29 octobre 2009. L'avenir des relations internationales est conditionné par l'évolution de la crise de l'économie capitaliste mondiale et le degré de son approfondissement. La solidarité entre grandes puissances, incarnée par les réunions du G7, du G8 et du G20, depuis l'élargissement à des pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Brésil, mais aussi l'Indonésie, le Mexique ou l'Afrique du Sud, semble pour le moment prédominer. Cette solidarité, qui a pour fondement l'intérêt commun des bourgeoisies à stopper la crise financière en écrasant un peu plus leur classe exploitée, ne met cependant pas fin à la concurrence et à la rivalité entre nations capitalistes, pas plus que le fait d'associer à ces conciliabules entre brigands impérialistes des dirigeants de quelques grands pays pauvres ne met fin aux relations de subordination entre puissances impérialistes et pays sous-développés. Malgré l'affaiblissement de son économie et de sa devise, le dollar, l'impérialisme américain continue à dominer le concert des nations. Il bénéficie d'un siècle de développement économique, favorisé par la possession d'un vaste marché national sur un territoire immense et riche en biens matériels comme en hommes. Ayant succédé à l'impérialisme britannique dans la domination du monde, ayant consolidé sa position de chef de file du monde capitaliste à travers les deux guerres mondiales, la bourgeoisie américaine, la plus puissante du monde, est, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en situation de prélever sa dîme sur l'économie mondiale. Seule lui faisait ombrage l'Union soviétique, mais depuis que celle-ci a implosé, minée qu'elle était par l'avidité de la bureaucratie à consolider sa mainmise sur l'économie, les États-Unis restent la seule superpuissance où le pouvoir de la bourgeoisie et le développement de son système économique n'ont d'autres limites que celles du capitalisme lui-même. Le recul actuel de son économie, la fragilité de son système bancaire révélée par la crise, comme la pauvreté croissante d'une partie de sa population, n'ont aucune cause autre qu'interne. Les États-Unis conservent cependant ce privilège hérité de leur développement au cours de leur siècle d'ascension, non seulement de s'enrichir au détriment de la partie sous-développée de la planète, au détriment en particulier de leur arrière-cour d'Amérique latine, mais aussi de pouvoir imposer aux autres puissances impérialistes un alignement derrière leur propre guerre. L'attribution du prix Nobel de la paix à Obama ne rendra pas l'impérialisme américain plus pacifiste. Comme nous l'avions déjà constaté dans le texte sur la situation internationale en 2007 puis en 2008, citation, les dépenses militaires, après avoir baissé pendant les années de décomposition de l'ex-Union soviétique, pour atteindre leur montant le plus bas en 1996, ont repris leur ascension pour revenir en 2005 au niveau qui était le leur à la fin de la guerre froide. Elles ont continué à croître à un rythme rapide. Le budget américain de défense est passé de 318 à 478 milliards de dollars entre 1996 et 2005, soit une augmentation de 50% en 9 ans. Cette course à la fabrication d'armes qui prend une part croissante dans une production matérielle par ailleurs stagnante est le reflet des multiples tensions dans les relations internationales, mais constitue aussi une nécessité économique pour la classe capitaliste. Fin de citation. Les dépenses militaires américaines restent jusqu'à présent à un niveau très élevé. Les interventions américaines en Irak et en Afghanistan représentant une part importante du budget. La réapparition récente des attentats meurtriers jusque dans les quartiers les plus protégés de Bagdad montre la fragilité de la toute relative stabilisation de la situation intervenue depuis 2007. Bien que la promesse d'Obama, très prudente il est vrai, de retirer l'armée américaine d'Irak ait contribué à son élection, les États-Unis sont loin de pouvoir y procéder. Les États-Unis ne peuvent pas se retirer du bourbier irakien qu'ils ont eux-mêmes créé sans que soit mise en place une force de répression autochtone capable de maintenir l'ordre. Cela semble d'autant moins le cas que certains des récents attentats semblent avoir bénéficié de complicité à l'intérieur même des forces armées irakiennes. Les États-Unis continuent à être confrontés au même dilemme depuis des années. retirer leurs troupes d'Irak et prendre le risque de laisser derrière eux le chaos avec des affrontements entre milices de différentes obédiences religieuses ou ethniques, ou bien rester sans pour autant arrêter le chaos. Or, toute la région étant une poudrière, le chaos irakien représente une menace de contagion pour toute la région. La situation en Irak est certainement un des nombreux éléments qui interviennent dans l'orientation de la politique américaine en direction de l'Iran. Les bruyants affrontements entre les dirigeants iraniens et ceux des États-Unis au sujet du nucléaire iranien ressemblent à une partie de poker menteur. Les États-Unis ont intérêt à associer les dirigeants iraniens à la défense de l'ordre régional. Il faut rappeler que c'était le rôle dévolu à l'Iran au temps du Shah. Après le renversement du Shah en 1979 et l'arrivée au pouvoir de Khomeini, les États-Unis avaient adopté une stratégie visant la chute du régime des Mollahs. L'Irak de Saddam Hussein avait été un des instruments de cette politique. Mais la guerre menée entre 80 et 88 par le dictateur de Bagdad, homme de main des puissances occidentales à l'époque, financée et armée par elle, n'avait pas détruit le régime iranien. Si ce dernier, affaibli par cette longue guerre dont on estime à 1 million le nombre de morts, n'a plus joué pendant quelque temps un rôle majeur sur l'échiquier du Moyen-Orient, il n'en va plus de même depuis plusieurs années. Non seulement le régime des Mollahs témoigne d'une certaine stabilité alors que l'Irak et l'Afghanistan voisins sont à des degrés divers en proie au chaos, mais il a une influence sur des organisations chiites en Irak, voire sur le Hezbollah du Liban. Et ce n'est certainement pas le caractère théocratique du régime iranien qui gêne les États-Unis, lesquels s'accommodent fort bien du régime encore plus réactionnaire, si faire se peut, de l'Arabie saoudite. À défaut de pouvoir se débarrasser du régime des Mollahs, l'intérêt stratégique des États-Unis est de l'avoir avec eux, en tout cas pas contre eux. Si bien des signes montrent l'orientation des États-Unis vers une sorte de réconciliation, le régime iranien, disposant d'une certaine assise populaire, n'est certainement pas enclin à devenir un régime fantoche. D'où les pressions que les États-Unis tentent d'exercer sur les dirigeants iraniens, en brandissant la menace que représenterait pour la région la capacité de l'Iran à se doter de l'armement nucléaire, tout cela avec la chaude approbation d'Israël qui dispose de la bombe atomique. Cette « menace nucléaire » entre guillemets remplit contre le régime iranien la même fonction que, citation, « les armes de destruction massive », fin de citation, contre Saddam Hussein. Elle ne vise probablement pas la guerre, que les États-Unis seraient incapables de mener sur un troisième front, mais à amener l'Iran à accepter les conditions de réconciliation avec les États-Unis les plus favorables à ceux-ci. L'argument que l'Iran représenterait une menace pour la région n'en est pas moins cynique de la part des puissances impérialistes. D'abord parce qu'elles-mêmes et leurs alliés dans la région disposent de ces armes nucléaires qu'elles interdisent à l'Iran. Ensuite parce que, comme l'affirmait Chirac, un missile iranien porteur d'ogives nucléaires aurait à peine le temps de décoller qu'il serait déjà détruit par les systèmes antimissiles déployés dans la région par les grandes puissances et par Israël. Enfin, et surtout, au cours du siècle passé, on n'a jamais vu l'Iran menacer les puissances occidentales, alors que celles-ci sont intervenues, directement ou indirectement, à plusieurs reprises. En 1941, c'est l'armée britannique qui a envahi le pays, en association avec l'Union soviétique, pour renverser le Shah, soupçonné de vouloir maintenir la neutralité du pays dans la guerre. En 1953, c'est la CIA qui a orchestré le renversement du premier ministre Mossadegh, qui avait voulu nationaliser le pétrole iranien, dominé à l'époque par le Trust Anglo-Iranian Oil Company, devenu par la suite British Petroleum, BP. Et en 1980, l'agresseur était Saddam Hussein, avec l'appui des États-Unis. En Afghanistan, les armées coalisées sous l'égide des États-Unis sont dans une situation qui ressemble bien à un enlisement. La comédie électorale, pour donner un caractère démocratique au régime de Karzai, nommé par la coalition occidentale, est en train de tourner à la farce. C'était de toute façon une pseudo-élection faite pour l'opinion publique occidentale afin de donner à l'intervention impérialiste les allures d'une intervention pour la démocratie. C'est une vieille recette de toute intervention impérialiste qui n'a évidemment jamais lieu pour imposer une domination ou pour protéger un pillage, mais au nom de la paix, de la démocratie ou de la civilisation. Mais pour naïf que soit l'opinion publique occidentale, informée par une presse qui dit ce qu'elle a envie de dire, le conte de fées d'une démocratie en marche en Afghanistan a du mal à passer. L'impérialisme français tient à manifester sa présence dans la région en auxiliaire de l'impérialisme américain. Quoi qu'en disent les ministres, c'est une guerre de brigandage, avec la peau des soldats et bien plus celle de la population afghane. Reste, en résultat de l'intervention des troupes occidentales, un régime corrompu jusqu'à la moelle et dont le pouvoir ne dépasse pas les limites de la ville de Kaboul et encore. Restent également des structures sociales anachroniques auxquelles les grandes démocraties d'Occident n'ont pas touché, marquées par le clanisme, l'oppression des femmes, le pouvoir religieux. Reste surtout une population maintenue dans la misère, le pays étant un des plus pauvres du monde, auquel l'intervention occidentale n'a apporté, en guise de modernité, que les avions de combat qui passent dans le ciel pour larguer leurs bombes, et en guise d'aide matérielle, que les retombées pour le commerce local des sommes dépensées pour assurer la présence des troupes occidentales. C'est l'hostilité croissante à l'égard des troupes d'occupation qui favorise la multiplication et le renforcement des groupes de guérilla armés regroupés sous le nom générique de talibans. Désignation fausse dans sa généralité, car tous ceux qui combattent les troupes occidentales et le régime de Karzai ne se revendiquent pas de l'ancien régime encadré par ces étudiants en religion que sont les talibans. Le régime de Karzai retrouve en face de lui les milices des différents seigneurs de guerre, dont chacun a son fief régional. Incapable de les combattre, le régime et derrière lui les puissances occidentales composent avec, tentent de les jouer les uns contre les autres, les renforçant par la même occasion. Dans ce jeu complexe en direction des chefs de guerre, il n'est d'ailleurs pas dit que les troupes d'occupation occidentale et Karzai jouent la même partition. Il n'est même pas dit que les différentes troupes d'occupation jouent le même jeu. Si pour l'Irak, la perspective d'un retrait des troupes d'occupation est envisagée sans être réalisée, dans le cas de l'Afghanistan, non seulement elle n'est même pas envisagée, mais il est question d'y envoyer des troupes supplémentaires. Devant la réalité de l'enlisement occidental, illustré par le fait que la guérilla contrôle les trois quarts au moins du territoire national et qu'elle multiplie les opérations à l'intérieur même de Kaboul, les États-Unis sont engagés dans une fuite en avant, envisageant un accroissement de leur présence militaire. Ça ne leur avait pas réussi au Vietnam. Reste la question de savoir jusqu'où l'opinion publique américaine acceptera sans réaction massive le retour au pays de cercueils de soldats. D'Obama à Brown en passant par Sarkozy, tous les dirigeants cherchent à convaincre leur opinion publique de l'importance de cette guerre, qui est en passe de devenir un foyer d'infection pour toute la région. À commencer par le Pakistan. Les services secrets de ce pays, grand allié des États-Unis et détenteur de la bombe atomique, ont joué un rôle considérable au temps de l'occupation soviétique de l'Afghanistan, pour former et pour armer les seigneurs de guerre combattant l'armée d'occupation de l'époque, ainsi que les talibans. Leur politique passée se retourne contre eux comme un boomerang. Toute la zone frontière du Pakistan mitoyenne de l'Afghanistan et sous la loi des groupes armés à base religieuse ou ethnique pashtoun. Malgré les interventions répétées de l'armée pakistanaise pour reconquérir son propre territoire avec le soutien des États-Unis, l'instabilité déborde la zone frontière et menace l'ensemble du Pakistan. À part quelques discours en direction des dirigeants des pays arabes, il n'y a aucun changement visible dans la politique américaine sur la question palestinienne. Les États-Unis, comme toutes les grandes puissances, ont laissé l'aviation israélienne pilonner Gaza pendant plusieurs semaines cet hiver 2008-2009. Le gouvernement Netanyahou, mis en place en février 2009, est un des plus à droite, un des plus réactionnaires, un des plus ouvertement hostiles au peuple palestinien qu'il y ait eu depuis longtemps. Il continue l'implantation de nouvelles colonies juives en Cisjordanie, la consolidation du honteux mur qui concrétise toute une politique d'apartheid entre les deux peuples. et il multiplie les mesures qui ne peuvent être considérées par le peuple palestinien que comme des provocations permanentes. Il faut rappeler que cette politique a été menée par tous les gouvernements israéliens au nom de la sécurité d'Israël et de son peuple. Elle a creusé un fossé de sang et de haine entre les deux peuples, elle a aggravé l'oppression du peuple palestinien et rendu sa situation matérielle intenable. Elle a conduit au renforcement du Hamas au sein du mouvement palestinien et à l'éclatement d'une entité palestinienne déjà morcelée entre Gaza et la Cisjordanie, mais sans même améliorer la sécurité d'Israël. Le bombardement de Gaza, comme la multiplication des colonies en Cisjordanie, l'infamie du mur de séparation, comme celle de la répartition de l'eau, qui en limitant à 20 litres par jour et par personne le quota réservé aux Palestiniens de Cisjordanie, est en train de les assoiffer, ne peuvent qu'alimenter les actions, y compris les plus désespérées, venant de la population palestinienne. Sur le continent africain, si certains foyers de guerre se sont éteints, au moins momentanément, au Libéria ou en Sierra Leone, d'autres ont pris leur place. Une partie du Soudan, le Tchad ou la Somalie sont en état de guerre. Sans parler des guerres internes sur des bases ethnistes ou religieuses qui déchirent avec plus ou moins d'intensité le Nigeria, le Niger, la Guinée-Bissau, la Mauritanie. Quant à la Côte d'Ivoire, si une sorte de paix armée a succédé à la guerre ouverte par le putsch militaire de septembre 2002 entre le Nord et le Sud, le pays n'est toujours pas unifié. La détérioration de la situation économique ne pourra que multiplier et intensifier les conflits. Conséquence de la pauvreté dans les régions où la possession d'un fusil est un moyen de survie, la multiplication des bandes armées est un facteur aggravant de la pauvreté. L'Afrique noire, qui avait en son temps subi dans sa chair l'ascension de la bourgeoisie d'Europe occidentale par le trafic d'esclaves, par le dépeuplement, est le continent qui paye sans doute le plus cher la perpétuation de l'impérialisme décadent d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, troisième pays d'Afrique par l'étendue et le plus riche par la variété du trésor minéral que renferme son sous-sol, résume à elle seule le destin de l'ensemble du continent. Un rapport d'enquête établi par le Sénat congolais et rendu public ce mois d'octobre à Kinshasa constate que l'état de ce pays est dans l'incapacité totale de seulement recenser les sociétés minières qui opèrent sur son territoire et encore moins d'en retirer des recettes fiscales. En fait, un grand nombre de grandes sociétés occidentales sont présentes sur son territoire pour exploiter, directement ou indirectement, le cobalt, le cuivre, l'or, l'argent, le diamant, le coltan, qui partent vers l'industrie des pays développés, sans la moindre retombée non seulement pour la population locale, mais même pour l'État du Congo. Tout au plus bénéficient un peu des retombées de ces richesses les multiples chefs de guerre qui servent de vigile aux trusts qui pillent le pays. L'écrasante majorité des quelque 70 millions d'habitants, citation, vit, pour reprendre l'expression du journal Le Monde, dans des conditions infra-humaines, victimes des guerres locales, victimes de la gabegie politique et administrative, victimes surtout du pillage du pays, fin de citation. L'investiture au Gabon d'Ali Bongo pour succéder à son père, Omar Bongo, dictateur de ce pays pendant 42 ans, sous les applaudissements chaleureux du gouvernement français, ainsi que les derniers rebondissements du procès dit de l'Angola Gate, rappelle la présence active et le rôle peu reluisant de la France dans ses anciennes colonies d'Afrique et même au-delà. Il n'y avait certes pas à attendre de Sarkozy qu'il abandonne, comme il prétendait le faire en arrivant au pouvoir, la France-Afrique, les liens étroits noués entre les dictatures ou les régimes plus ou moins autoritaires de l'ex-empire colonial et nombre de dirigeants politiques et hauts fonctionnaires de l'État français. Chacun y trouve son compte, les dictateurs d'Afrique une protection et une reconnaissance diplomatique internationale, et l'impérialisme français des commandes, des marchés, une zone d'influence, sans parler des petites retombées pour des clans et des hommes politiques, les dirigeants africains sachant être généreux avec l'argent extorqué à leur peuple. À défaut d'autre chose, le procès de l'Angola Gate a levé un coin du voile sur ce petit milieu où se côtoient des hommes politiques, de droite comme de gauche, un ancien ministre, un ex-préfet, des trafiquants d'armes, des hommes d'affaires véreux, assaisonnés de quelques écrivains et essayistes à succès. Les millions encaissés par les uns et par les autres ne sont cependant que des miettes du profit tiré des populations parmi les plus pauvres du monde et du pillage du continent. Si la mainmise sur l'économie de la plupart de ces pays ne procure plus au grand capital français qu'une fraction de ses profits globaux, ce que cela représente n'est pas négligeable pour quelques dynasties capitalistes du genre Bolloré, Bouygues, Michelin, Pinault, Saadé, Aga Khan et quelques autres, et pour quelques-unes des plus grandes entreprises du CAC 40, Total, Areva, Air France, Eramet, Vinci. Pour des banques comme la BNP, la Société Générale ou le Crédit du Nord, sans parler des marchands d'armes. Pour protéger ses intérêts, l'État français déploie actuellement en Afrique quelques 10 000 militaires. La moitié stationne dans des bases permanentes à Djibouti, au Sénégal et au Gabon. Les autres participent aux opérations militaires au nom poétique de Licorne en Côte d'Ivoire et Épervier au Tchad. Sans parler des militaires français participant, voire structurant, la force européenne présente également au Tchad et en République centrafricaine. Au Tchad, l'armée française maintient à bout de bras le dictateur Déby, qu'une opposition armée faillit renverser par deux fois n'eût été l'intervention de l'aviation française. En Côte d'Ivoire, l'armée française déploie quelques 4000 soldats, théoriquement en tant que force d'interposition entre les deux bouts opposés de l'ancienne armée ivoirienne, l'armée dite loyale occupant le sud du pays où réside le gouvernement légal, et l'armée rebelle qui occupe le nord. Depuis qu'un accord est intervenu entre Gbagbo, président en titre de la Côte d'Ivoire, et Soro, le chef de politique de la rébellion du Nord, consacré par le fait que le second est devenu le premier ministre du premier, toute la caste politique se prépare à une élection présidentielle censée liquider la sécession, rétablir l'unité du pays et, plus important encore pour l'impérialisme français, l'unité de l'armée. Repoussée à plusieurs reprises, cette élection a été « définitivement » entre guillemets fixée au 29 novembre 2009. À l'heure où nous écrivons, tout indique cependant que la date sera une fois de plus repoussée, moins sans doute en raison de la lenteur invoquée du recensement et de la distribution des cartes électorales qu'en raison de la résistance de quelques chefs militaires rebelles qui se sont taillés des fiefs profitables. Citation, « Ils exploitent et exportent les ressources naturelles, dont le cacao, le coton, le bois, la noix de cajou, l'or et les diamants », souligne un rapport tout récent de l'ONU. Gbagbo, de son côté, bénéficie de ces reports d'élections. La présidentielle aurait dû avoir lieu en 2005, car en attendant, il continue à occuper le palais présidentiel. Et, intérêt supérieur de la nation ou pas, ceux qui se sont taillés un fief n'ont envie de l'abandonner que moyennant des dédommagements conséquents. Les bourgeoisies, ivoiriennes comme françaises, ont les serviteurs qu'elles méritent. Mais les foyers de tension où le feu couve sous la cendre avec la menace de s'embraser ne se limitent pas aux deux tiers sous-développés de la planète. En Europe, si l'un des États issus de la décomposition de la Yougoslavie, la Slovénie, a été intégré à l'Union européenne et même à la zone euro, si un autre, la Croatie, est en voie de s'y acheminer, la Bosnie d'un côté et le Kosovo de l'autre, sont loin d'avoir trouvé la stabilité que prétendaient leur apporter les puissances occidentales tutélaires. La Bosnie, un protectorat déguisé, sous la tutelle d'un haut représentant, est paralysée sur le plan institutionnel, 14 ans après les accords de Dayton. Elle reste fracturée entre deux entités, une république serbe et une fédération croato-musulmane pratiquement indépendante. La première est dirigée par le clan politico-mafieux de son chef de gouvernement, qui n'entend pas abandonner la main mise sur son fief. La seconde est elle-même une entité composite avec une séparation ethnique officielle. Le Kosovo, dont l'indépendance n'a pas été reconnue par un grand nombre d'États, dont la Russie, mais aussi l'Espagne, etc., est de son côté déchiré entre sa majorité albanaise et sa minorité serbe. Les conflits politiques profitent, là encore, à la criminalité organisée et au trafic de toutes sortes. La division de l'ex-Yougoslavie, que la diplomatie internationale justifie par le principe des nationalités, a réussi cette performance que, malgré le morcellement étatique, ou à cause de lui, de au moins des questions nationales qui taraudent la région depuis les guerres balkaniques du début du siècle dernier, la question serbe et la question albanaise, n'ont toujours pas été résolues. Si c'est toujours en ex-Yougoslavie que les tensions nationales, voire ethniques ou religieuses, sont les plus visibles, c'est toute l'Europe centrale qui en est minée. Partout dans les ex-démocraties populaires, la crise et la pauvreté qui montent avivent les tensions entre peuples. Dans toute cette partie de l'Europe, les frontières ont été tracées par les puissances impérialistes victorieuses de la Première Guerre mondiale en fonction de leurs intérêts, puis retracées par les accords de Yalta et de Potsdam pendant ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sans jamais se préoccuper des intérêts ni même de l'identité des peuples qu'on morcelait ou regroupait de force avec d'autres. La plupart de ces États sont composites avec une ou plusieurs minorités nationales qui servent tout naturellement de cible aux démagogues d'extrême droite. À ces minorités nationales s'ajoutent les Roms, présents partout et qui, partout, constituent la fraction la plus pauvre, la plus opprimée de la population, celle aussi qui est la cible privilégiée des groupuscules fascisants. Les récentes élections européennes ont confirmé la montée des extrêmes droites, jouant sur la démagogie chauvine à l'égard des minorités nationales, racistes à l'égard des Roms. Outre les idées abjectes qu'ils véhiculent, les groupes d'extrême droite, qui commencent à avoir pignon sur rue, représentent une menace même physique pour les travailleurs. La classe ouvrière représente dans ces pays une force numérique importante, concentrée souvent dans de grandes usines datant de l'époque des démocraties populaires et qui n'ont pas toutes été abandonnées ou démantelées depuis. Aussi bien la classe ouvrière polonaise que celle de l'ancienne Tchécoslovaquie, de Hongrie ou de Roumanie ont de riches traditions de lutte. Ces classes ouvrières, naguère exploitées et opprimées sous des régimes qui se prétendaient socialistes, continuent à l'être au profit des capitaux privés sous des régimes le plus souvent très réactionnaires et sont sans doute plus désorientés encore que la classe ouvrière occidentale. Mais la gravité de la crise menace d'entraîner des explosions sociales dangereuses pour la bourgeoisie de ces pays, qui est à la morgue des nouveaux riches, et derrière elle, pour le grand capital occidental qui domine l'économie de ces pays. C'est dans ce contexte que le développement des groupes d'extrême droite, avec l'anticommunisme pour drapeau et un verbiage chauvin, mobilisable pour casser des grèves, représente un danger pour les travailleurs. L'économie de la Russie et son budget ont été portés après 2000 par les prix élevés du pétrole et du gaz et de quelques autres matières premières. Les hydrocarbures, représentant plus de 50% des exportations, les métaux et les produits métalliques, près de 20%, les cours élevés de ces matières premières ont permis à la Russie de se désendetter et de constituer des réserves qui se sont montées à 600 milliards de dollars en août 2008, enrichissant au passage les oligarques qui ont réussi à mettre la main sur ces secteurs. Poutine se vantait en novembre 2008 que, citation, « l'économie sera protégée des actions externes brutales par nos réserves internationales », fin de citation. En réalité, ces réserves ont fondu en quelques mois, tombant à 370 milliards de dollars en 2009. Ce qui avait été un avantage pour la Russie est devenu un handicap avec la crise et avec la fluctuation des prix du gaz et du pétrole. L'économie productive a été sérieusement touchée, avec une chute de la production industrielle de 9% en novembre 2008, de 10% en décembre 2008 et de 16% en janvier 2009 par rapport à l'année précédente. S'il n'y a certes pas à s'apitoyer sur le sort des grands oligarques de l'économie russe liés au cercle du pouvoir politique, un Deripaska devenu avec la protection de Poutine le roi de l'aluminium aurait ainsi perdu 20 milliards de dollars, les conséquences de la crise ont pris une tournure originale du fait du passé soviétique. Un des fondements de l'économie planifiée de l'Union soviétique était le développement de très grandes entreprises spécialisées dans une seule production, comme par exemple l'usine automobile Avtovaz, avec ses 102 000 ouvriers, dont Renault détient aujourd'hui un quart des actions, entraînant le développement autour d'elle de villes mono-industrielles. Malgré l'évolution de l'économie ex-soviétique au cours des 20 dernières années, malgré les transformations juridiques intervenues avec bien des fluctuations, la structure fondamentale de l'ensemble de l'économie russe reste marquée par cette spécificité datant de la planification. D'après les chiffres les plus récents, source Le Monde, au moment où se déclenchait la crise, 40% du produit intérieur brut de la Russie était généré par ces villes mono-industrielles, c'est-à-dire tournées vers un seul type de production et une seule entreprise. La Fédération russe compte 400 de ces villes mono-industrielles, regroupant 25 millions de personnes. De plus, la planification avait permis à l'époque de faire surgir de telles villes, même dans les régions les plus inhospitalières du pays. Le présent comme l'avenir de ces entreprises, comme des villes auxquelles elles ont donné naissance, dépendait et dépendent encore de leur intégration dans un tissu industriel à l'échelle de l'ensemble du pays. Cela était par nature assuré par l'économie planifiée. Mais cela multiplie et aggrave les problèmes maintenant que les liens établis dans le cadre de l'économie planifiée sont rompus. Lorsque la crise frappe une de ces entreprises, cela n'est pas seulement dramatique en raison de la menace de licenciement qui pèse sur une partie des travailleurs, mais aussi parce que l'entreprise et la ville vivent en symbiose. Souvent, c'est l'usine qui produit aussi l'électricité et le chauffage pour toute la population et assure un certain nombre de services sur le plan social, colonies de vacances pour les enfants, cantines accessibles aux familles, soins, etc. Le risque multiplié d'explosion sociale dans ces conditions explique la prudence des dirigeants politiques comme de la direction des entreprises elles-mêmes qui, sous la pression de cette menace, préfèrent réduire le temps de travail, imposer des périodes plus ou moins longues de chômage technique plutôt que de fermer les entreprises. Grâce à la surexploitation de ces travailleurs, l'État chinois a amassé des réserves de change de près de 2000 milliards de dollars, qui en font un des principaux détenteurs de devises américaines, derrière les États-Unis bien évidemment. L'interdépendance financière que cela implique entre les deux pays conduit à toutes sortes de fantasmes, présentant la Chine comme le pays dont le dynamisme sortira l'économie capitaliste mondiale de la crise, voire comme le futur grand de l'économie mondiale, pour ainsi dire à l'égal des États-Unis. Mais c'est oublier que cette interdépendance est celle qui lie un pays développé, avec un marché intérieur puissant et un système financier qui l'est encore plus, à un pays sous-développé, qui bien que près de 4 fois plus peuplé, a un marché intérieur limité par la pauvreté de la majorité de sa population. Si la Chine est devenue, comme il est coutumier de le dire, l'atelier du monde, cet atelier ne produit qu'en partie pour la population chinoise. De plus, les entreprises qui produisent en Chine sont bien souvent des sous-traitants de capitaux japonais, américains, taïwanais ou autres. La Chine d'aujourd'hui, c'est d'un côté les quartiers ultramodernes de Shanghai ou de Pékin, le fast et les lumières des Jeux Olympiques, et de l'autre côté, l'immense majorité des campagnes où on vit misérablement et où la population est soumise à des roitelets locaux issus de la bureaucratie de l'État ou du parti. La crise elle-même a l'air, pour le moment, d'accélérer les tendances en cours depuis plusieurs années. D'un côté, la Chine s'est hissée au deuxième rang des pays qui comptent le plus grand nombre de milliardaires derrière les États-Unis. Ces derniers en auraient 359, la Chine 130, qui d'après des chiffres donnés par Le Monde, cumulerait 571 milliards de dollars, un sixième du PIB chinois. De l'autre côté, les retombées de la crise auraient conduit déjà au renvoi chez eux, c'est-à-dire vers la misère des campagnes, plusieurs dizaines de millions de travailleurs venus chercher du travail et un salaire dans les mégapoles chinoises. Les commentateurs à la recherche de sensationnel n'ont cependant peut-être pas tort de penser que c'est dans ce pays que se décidera l'avenir du monde. Non pas à cause du nombre de milliardaires chinois qui font, paraît-il, depuis quelques années, la fortune des industriels du luxe et des producteurs de champagne et de cognac à 10 000 euros la carafe, mais en raison de l'importance numérique croissante du prolétariat chinois. Sous la direction d'un parti qui se dit aujourd'hui encore communiste, la Chine est devenue, à en croire les spécialistes de ce genre de comparaison, le pays aux inégalités sociales les plus criantes, juste derrière le Brésil, un peu avant l'Afrique du Sud, encore qu'en la matière, il y a bien d'autres concurrents pour ce peu reluisant palmarès. Avec le développement de ces inégalités, la Chine est peut-être en train d'accumuler les matières explosives qui feront exploser les structures économiques et sociales du pays, et étant donné son poids dans le monde, peut-être au-delà. C'est aussi le pays où se fait sans doute sentir de la façon la plus cruelle l'absence d'un parti politique représentant les intérêts du prolétariat. Dans ce pays immense par sa taille et plus encore par sa population, le seul facteur d'unification est un appareil d'État puissant, entièrement au service de la classe privilégiée. Face à cette centralisation, les explosions, même violentes, mais dispersées, étalées dans le temps, sont impuissantes. Mais, en d'autres temps, dans les années 20, la classe ouvrière chinoise, infiniment moins nombreuse qu'aujourd'hui, avait été capable de faire surgir de ses rangs un parti communiste. La clé de l'avenir est certainement dans sa capacité à faire surgir un nouveau parti véritablement communiste qui soit capable d'engager la guerre au nom de la classe ouvrière chinoise contre la nouvelle bourgeoisie et la bureaucratie d'État liée à cette dernière. Depuis plusieurs années, la situation d'oppression dans certains pays pauvres, les guerres locales et bien plus encore la pauvreté, voire la famine, poussent à la migration un nombre croissant de personnes. Ces migrations ne se limitent pas à des migrations d'Amérique latine ou des Caraïbes vers les États-Unis ou le Canada, ou d'Afrique vers l'Europe, mais elles vont aussi de l'Est européen pauvre vers la partie occidentale riche du continent ou de l'Indonésie, des Philippines, de la Malaisie, vers les pays pétroliers du Moyen-Orient. La migration est devenue, de voie de survie individuelle, un moyen de survie pour des régions, voire des pays entiers. Un récent rapport sous l'égide de l'ONU vient de découvrir que les travailleurs émigrés africains transféraient avant la crise, chaque année, l'équivalent de 40 milliards de dollars dans leur pays d'origine. Une somme sans comparaison avec les sommes misérables que l'on désigne sous les vocables d'aide aux pays pauvres ou d'aide au développement. C'est grâce à ces transferts que survit une partie importante de la population des pays d'où sont originaires les travailleurs migrants. Mais ce sont également ces transferts qui permettent aux communautés villageoises de réaliser un certain nombre d'équipements collectifs, des écoles élémentaires, etc. La diminution des sommes transférées du fait de la crise et du chômage qui frappe les travailleurs migrants est catastrophique pour ces pays. Ces transferts ne concernent pas seulement la migration africaine. Pour certains pays d'Asie ou même d'Europe, ces transferts représentent un montant considérable par rapport à leur produit intérieur brut, 45% pour le Tadjikistan, 38% pour la Moldavie, parmi bien d'autres. Le développement de ces migrations est un des aspects de la mondialisation sous l'impérialisme. Mais alors que l'impérialisme a unifié le monde pour les déplacements de capitaux et de marchandises, il multiplie les obstacles devant les déplacements des personnes, alors que c'est précisément l'impérialisme qui pousse aux migrations en creusant l'écart entre les pays riches et les pays pauvres, en imposant les contre-coups de sa crise financière sur les prix des produits alimentaires. Au moment où les sphères dirigeantes du monde impérialiste fêtent bruyamment l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, d'autres murs sont érigés dans le monde pour des raisons politiques, comme celui séparant la population d'Israël des Palestiniens, ou pour des raisons économiques, comme les barrières électrifiées à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ou encore à une des frontières sud de l'Europe, à Ceuta et à Melilla, sans parler des frontières Schengen installées aux limites orientales des pays de l'Est récemment intégrés. Mais les pires frontières ne sont pas celles qui sont matérialisées par du béton ou des barbelés. Ce sont celles qu'on installe dans les esprits par des politiques rétrogrades menées par tous les pays impérialistes en matière d'immigration, décrivant la migration comme un phénomène menaçant qu'il faut empêcher ou du moins filtrer. La politique migratoire, partagée par tous les gouvernements de l'impérialisme pourrissant, est un retour en arrière même par rapport à l'époque de l'impérialisme naissant. Rappelons que ce qu'on appelle parfois la première mondialisation à la fin du XIXe siècle et au début du XXe a été marquée par des mouvements migratoires massifs de l'Est et du Sud de l'Europe vers la partie occidentale du continent et plus encore d'Europe vers les États-Unis. Tout en provoquant ces déplacements de population, l'impérialisme n'avait pas encore inventé tous les obstacles physiques ou administratifs pour les empêcher, ni la notion même de sans-papiers. Rappelons aussi que le mouvement ouvrier de l'époque, que l'Internationale socialiste, encore révolutionnaire, considérait ces migrations et le mélange des populations ouvrières qui en résultaient comme quelque chose de positif, et même un des fondements de l'internationalisme de la classe ouvrière. Les grands partis ouvriers de l'époque œuvraient pour que les travailleurs du pays de destination accueillent les travailleurs migrants, pas seulement pour faciliter leur intégration, mais aussi pour les éduquer et leur transmettre le meilleur des traditions du mouvement ouvrier. Ils combattaient toutes les tentatives du patronat, qui n'étaient pas meilleures qu'aujourd'hui, pour dresser les travailleurs les uns contre les autres. Et ils le faisaient non seulement en invoquant des principes, mais aussi en luttant pour que les travailleurs migrants aient les mêmes salaires et les mêmes conditions d'existence que leurs camarades autochtones. Et c'est bien un des signes de la dégénérescence de ces ex-grands partis ouvriers que lorsqu'ils sont au gouvernement, ils mènent la même politique réactionnaire que la droite, dans ce domaine comme dans bien d'autres. Pour des militants communistes révolutionnaires, l'internationalisme n'est pas seulement une question de solidarité humaine élémentaire, bien que ce soit aussi cela. Tout comme la bourgeoisie portait en elle-même, à l'époque où elle était révolutionnaire, l'idée de nation, le prolétariat porte l'idée d'unification de la planète, tout simplement parce que le communisme n'est possible qu'à cette échelle. Le « prolétaire de tous les pays, unissez-vous » n'est pas seulement un slogan résumant la nécessité pour tous les travailleurs de s'unir par-delà leurs origines face à la classe capitaliste. C'est plus encore l'affirmation que le monde futur débarrassé de l'exploitation, de la propriété privée, des moyens de production, du profit et de la concurrence, où une économie planifiée et démocratiquement contrôlée pourra fonctionner selon l'expression de Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, ne pourra être réalisée que par le prolétariat mondial.